Dans le cadre des élections municipales de Strasbourg, notre invité aujourd'hui est Alain Fontanel, premier adjoint au maire sortant et candidat à la mairie de Strasbourg. Alors je vais faire un petit portrait, je vais commencer par dire bonjour à notre président, le président de la radio, Patrick Cohen, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour Alain Fontanel.
Bonjour à tous les deux.
Alors, je rappelle, vous êtes tête de liste Alain Fontanel 2020, une liste investie par La République En Marche. Je vous propose un petit portrait avant le jeu des questions-réponses. Alors, vous êtes né en 69 au Ménil-Saint-Denis. Vous passez votre jeunesse à Strasbourg, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, élève de l'ENA. Vous partez après vos études au Vietnam de 1995 à 2003 dans le cadre d'un programme en lien avec l'économie. Vous adhérez au Parti Socialiste en 1986 et on vous retrouve sur la liste de Roland Ris en 2008. Vous devenez quatrième adjoint et premier adjoint lors de la deuxième mandature. Vous êtes également vice-président de l'Eurométropole et président de la CTS, la compagnie des transports strasbourgeois depuis 2014. Vous êtes marié, père de trois enfants et fan du Racing Club de Strasbourg.
Alors moi, c'était j'ai une petite question, lumières. Valérie, par rapport à ça. Allez, on va commencer par une question sportive. Vous êtes plutôt attaquant ou défenseur, Alain Fontanel?
J'aime bien être gardien de but.
Alain Fontanel, au vu de
Mais les gardiens de but, il leur arrive, c'est rare, mais il leur arrive de marquer des buts aussi.
Et ils sont souvent les héros des matchs, ils sont souvent très discrets aussi. Hein. On ne les voit que dans les grands événements.
Oui, mais ils sont décisifs.
C'est pas faux.
Au vu de votre parcours, Alain Fontanel, votre candidature semble évidente pour vous aussi. C'était une évidence de vous présenter à cette élection?
Non. En fait, c'est une construction, c'est une réflexion, une maturation. Parce que d'abord, c'est un engagement personnel fort. Et un engagement personnel, c'est aussi un choix de vie et un choix de famille. Et donc, ça se discute en famille. Parce que... C'est cette capacité à se projeter sur un avenir, sur une vision collective et de mener une équipe. Et tout ça, ça se prépare. Ça se prépare aussi avec des colistiers, avec une réflexion, avec des lectures, avec un regard sur soi-même. Et c'est après ce long travail que l'on peut se dire oui, c'est le moment et c'est important.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien affectif avec Strasbourg? On disait que vous n'êtes pas né ici, vous avez fait vos études, vos petites études déjà, vous étiez à l'école Branly ici à Strasbourg.
En fait, je ne suis pas né ici un peu par un accident d'histoire parce que je suis né le 2 janvier et mes parents étaient partis fêter un nouvel an dans une autre partie de la famille dans la banlieue parisienne. Donc c'est pour ça que je ne suis pas né à Strasbourg. Mais mes parents y étaient juste avant ma naissance et j'y suis revenu au bout d'une semaine de naissance. Donc j'ai vraiment strasbourgeois de toujours. Et Strasbourg m'a tout apporté, tout donné, à son mode de vie, son histoire, sa richesse patrimoniale. Sa singularité, c'est une ville qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer. On a traversé des moments difficiles collectivement. C'est une ville qui m'apporte sa culture, son ouverture d'esprit. Et donc, je lui dois tout. Et c'est aussi, pour moi, une manière d'essayer de lui rendre ce qu'elle m'a apporté.
Alors, vous disiez que c'était une décision familiale, ça veut dire que vous avez consulté votre épouse pour vous engager? Il fallait que vous ayez son accord?
Bien sûr, mon épouse, on en a discuté aussi avec mes enfants, après au-delà du cercle familial avec les amis. Je crois que ce type d'engagement ne peut pas être solitaire, et puis on ne peut pas être... on ne peut pas affirmer un leadership si on n'est pas équilibré dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et donc tout ça se fait de manière cohérente.
Alors, vous êtes, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ce matin, hein, dans la presse régionale, on voit que le maire sortant, Roland Ris, vous a adoubé, en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, il vous apporte son soutien. Ce n'est pas une grande surprise, je pense, hein, pour les administrés. En revanche, je regarde pas mal les réseaux sociaux et aujourd'hui, on vous reproche un peu de porter ce qui, dans le bilan, n'a pas forcément convenu, ce qui vous met ou ce qui met vos coalitions dans une position défensive, finalement, pour un certain nombre de projets. Est-ce que, j'ai envie de dire, que ce soutien, il n'arrive pas de manière un peu tardive et puis pas forcément au meilleur moment?
Non, je pense d'abord... Ce soutien me touche. Roland Riss m'a fait confiance. Il m'a donné des responsabilités. Dès 2008, la gestion des finances de la ville et de l'Eurométropole, c'est une lourde responsabilité. Aujourd'hui, premier adjoint en charge de la culture, j'ai beaucoup appris de ces responsabilités et ça participe à faire ce que je suis aujourd'hui et à m'avoir préparé à cette échéance. Mais au-delà de ça, je partage avec Roland Riss des valeurs fortes que j'ai trouvées chez lui et qu'il a partagé avec moi. D'abord, son pragmatisme, sa capacité, au-delà des clivages, au-delà des dogmes, à chercher des solutions concrètes aux problèmes du quotidien, cette ouverture, cet humanisme, cette tolérance. Mais je ne suis pas Roland Riss, évidemment, on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même méthode, on ne voit pas les choses totalement de la même manière, mais il m'a beaucoup apporté. Sur le bilan aujourd'hui, pour moi, les choses sont très claires. Ces dernières années, notre ville s'est transformée, elle s'est modernisée, elle s'est apaisée. Il y a eu beaucoup de réalisations. Beaucoup de choses ont été faites et on a fait des erreurs. Et je pense que
quand on voit, pardon Alain Fontanelle, je vous interromps, quand on voit l'embrasement des quartiers en décembre dernier, vous trouvez que la ville s'est apaisée sur le centre-ville, on ne peut pas considérer qu'elle se soit beaucoup agitée, mais sur la périphérie, est-ce que réellement, et ça, on parlera peut-être du bilan de la municipalité actuelle, est-ce que sur ce point-là, vous avez le sentiment qu'il a manqué quelque chose ou que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose? Du coup, la réflexion que vous avez par rapport à ça, c'est quoi aujourd'hui?
Alors, le mode de vie s'est apaisé. Il y a un problème de sécurité dans notre ville. Ces deux sujets.
La sécurité, c'est finalement la conséquence, Alain Fontanelle.
Tout à fait. Il y a un problème de sécurité dans notre ville. Mais ne confondons pas tout. Le 31 décembre, il y en a eu 12 sur les mandats. C'est un moment tout à fait particulier cette année qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre et qu'il faut corriger. Mais les 11 précédents se sont passés dans des conditions totalement différentes. Il y a eu un paroxysme cette année. Cette année, c'est aussi le reflet du niveau de violence que nous avons dans la société depuis un an. Je pense que nous n'avions jamais vu la mise à sac de l'Arc de Triomphe. Nous n'avions jamais vu autant de violence dans notre société depuis l'arrivée des Gilets jaunes. Nous avons un enjeu d'ordre républicain dans tous les quartiers de la ville. Ça part des incivilités, du vélo, du respect de l'autre sur l'espace public, jusqu'à la petite et à la grande délinquance. Nous devons traiter ces questions-là avec engagement, avec force, et avec volontarisme. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai annoncé que, maire de Strasbourg, je prendrai moi-même la compétence de la sécurité, parce que c'est une compétence régalienne qui nécessite un engagement et une capacité à dialoguer au plus haut niveau avec les forces et les représentants de l'État. Je le ferai en tant que maire de Strasbourg, parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté.
Vous allez pallier, finalement, peut-être au manque ou en tous les cas ou à l'absence de la police nationale dans les quartiers. Vous souhaitez développer la police municipale. La ville va s'investir là-dedans pour peut-être pallier à ce qui peut manquer.
Oui, tout à fait. Vous savez, depuis la montée en puissance du terrorisme dans notre pays, les forces de police, tant nationales que municipales, sont absorbées par des missions qui n'étaient pas les leurs auparavant. De protection d'événements, de protection de bâtiments, des missions importantes. Mais cela revient à avoir, de fait, réduit les effectifs pour la police contre les incivilités, la police de proximité dans les quartiers. Il faut plus d'effectifs. Et maire de Strasbourg, je créerai 30 nouveaux postes de policiers municipaux pour retrouver cette proximité, cette réactivité aussi. Quand on appelle la police dans un quartier parce qu'on a un problème de voisinage, parce qu'il y a un problème de drogue, parce qu'il y a un problème de tapage nocturne, il faut qu'il y ait une réactivité, une présence et une capacité à résoudre. C'est pour ça qu'il faut plus d'effectifs, mais il faut aussi une volonté et un engagement de faire de cette question-là une priorité, ce que je ferai.
Le développement de la télésurveillance, ça fait partie de vos projets?
Tout à fait. On a aujourd'hui un réseau de vidéosurveillance très développé dans la ville. Il faut pouvoir le compléter avec toujours cet enjeu de la présence humaine et des policiers, parce que voir dans un bureau, derrière une caméra, qu'il se passe quelque chose, si on ne peut pas envoyer sur place rapidement des forces de police pour réagir, ça ne sert à rien. Donc c'est toujours les deux instruments qui sont complémentaires.
Et avant la répression, peut-être une forme de pédagogie, de présence sociale, d'aide. Comment est-ce que ça peut se passer ?
Évidemment, la répression seule, la police seule, comme l'école seule, ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société. Et donc, il y a toujours un triptyque entre éducation, accompagnement et répression. Quand il manque un élément du triptyque, les choses ne vont pas. Si vous faites de l'éducation et de l'accompagnement sans répression, l'impunité s'installe et on va vers une dérive. À l'inverse, si vous êtes dans la répression uniquement, la tension augmente dans les quartiers et vous n'arrivez pas à maintenir la cohésion du corps social. Moi, je propose, par exemple, que pour l'éducation, 100% d'une classe d'âge dans les écoles de la ville passe un permis citoyen. Un permis citoyen, c'est l'occasion de rappeler les droits et les obligations de chacun. C'est l'occasion de faire de l'éducation sur les enjeux de discrimination, de lutter contre l'antisémitisme dès le plus jeune âge. C'est aussi le moment de passer un permis vélo piéton pour rappeler les fondamentaux de la société. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes aux questions environnementales. Aujourd'hui, les jeunes à la maison, c'est eux qui sont les premiers acteurs du changement. Mais l'éducation seule, ça ne suffit pas. Il faut aussi, bien sûr, accompagner et trouver des solutions pour ramener à l'emploi une jeunesse qui est aujourd'hui touchée par des taux de chômage extrêmement importants. Et enfin, éducation, accompagnement et bien sûr, sanctions. L'enjeu pour le 31 décembre, on l'a vu, c'est la difficulté à attraper ceux qui ont été acteurs d'actes de délinquance. Il faut les attraper, il faut sanctionner ceux qui ont commis ces actes et il faut aussi parfois sanctionner les parents qui ont démissionné. Quand on a un jeune de 12 ans qui, à 2h du matin, fait brûler une voiture, et c'est souvent la voiture du voisin en plus, dans la rue, il doit être attrapé, sanctionné et ses parents aussi.
Alors, vous parliez d'emploi dans les quartiers. Du coup, je rebondis. En quoi la mairie peut-elle intervenir dans le domaine de l'emploi ? En quoi la mairie peut-elle aider au retour à l'emploi ? En quoi la mairie peut être créatrice d'emplois ?
Quand on dit mairie, en réalité, c'est ville et eurométropole. C'est les deux collectivités, les compétences économiques étant plutôt concentrées dans l'eurométropole. Il y a d'abord une responsabilité de faciliter l'activité économique. Pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Nous avons la possibilité, nous avons déjà plusieurs programmes pour faciliter, simplifier les procédures, faciliter l'accès à des terrains pour développer des entreprises, mais aussi attirer des grands groupes sur le territoire de notre ville. Ensuite, il y a la question de savoir comment ces entreprises peuvent accueillir des jeunes, notamment issus des quartiers. Et là, on a un enjeu de formation, d'accompagnement, de coaching. Ce sont souvent des jeunes éloignés de l'emploi, des jeunes qui sont en situation d'échec scolaire. Et donc, il faut pouvoir faire du coaching, des dispositifs révélateurs de talents qui existent déjà dans certains quartiers. Mais on doit pouvoir monter en gamme pour mettre en place notamment ce programme national qui existe sur l'objectif zéro chômeur de longue durée dans nos quartiers. Mais c'est souvent du un pour un. Il faut souvent un adulte pour accompagner un jeune, pour faire profiter de son expérience, pour faire profiter de son réseau. Et donc, ça prend du temps et ça coûte aussi un certain nombre de moyens.
Il n'y a pas souvent un clivage, justement, entre les urbains, le centre-ville, les quartiers périphériques, peut-être qu'on ne va pas dire sensibles, contre justement ces quartiers dits sensibles.
Vous savez, on se targue souvent à Strasbourg, avec raison d'avoir construit des ponts plutôt que des murs, d'avoir fait un tram qui va jusqu'à Kiel et qui fait disparaître cette frontière, alors que les États-Unis et Donald Trump construisent des murs. Mais malheureusement, on a laissé des frontières invisibles s'installer entre certaines parties de notre ville. Et quand ces frontières s'installent, durent, c'est le danger du repli, c'est le danger du communautarisme. Et c'est évidemment aussi le danger du radicalisme. Et donc, il faut pouvoir traiter ces questions. Il faut pouvoir mettre des mots calmement, d'en faire un vrai débat, parce qu'autrement, on perd le fil et les risques sont importants. On l'a vu le 31 décembre, On l'a vu il y a une quinzaine d'années avec les émeutes de banlieue dans notre pays. Il faut aujourd'hui regarder ces problèmes sans tabou et avec engagement.
Alors, je vais juste revenir une fois sur, sur le parrainage de Roland Ries. J'ai une question par rapport au mandat qui se termine. Vous êtes toujours premier adjoint de cette mairie de Strasbourg. Et j'aimerais voir justement, et c'est peut-être ce qui va définir votre singularisme, quel est dans le mandat qui s'est terminé ou dans les deux mandats qui se terminent, puisque vous avez fait deux mandats avec l'actuelle majorité, une ou deux décisions qui ont été prises que vous n'auriez pas prises ou que vous n'auriez pas prises de la même manière. Voilà, je voudrais entendre Alain Fontanelle, je voudrais plus entendre le premier adjoint de la municipalité sortante.
Je vais donner quelques exemples, y compris de, des exemples où, où j'ai pensé qu'on avait bien fait à ce moment-là. Parce que la responsabilité, c'est aussi d'avoir l'humilité de reconnaître ses propres erreurs et de voir ce qu'on peut en apprendre pour l'avenir. La première exemple que je prendrai, c'est l'avenue des Vosges. L'aménagement de l'avenue des Vosges avec la piste cyclable est le fruit d'une pétition d'habitants de l'avenue, de 1500 personnes, c'est important, qui nous ont dit quand on sort de l'avenue des Vosges, on se sent en insécurité parce que les vélos filent à grande vitesse entre les voitures garées en épi et la façade et on se fait happer. Par ailleurs, ils nous disaient on ne peut plus respirer, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, il y a trop de pollution, faites quelque chose, aménagez une piste cyclable. On l'a fait. On l'a fait en voulant tout concilier, c'est-à-dire sans toucher à la circulation complètement, sans toucher au stationnement. Et on a finalement accumulé tous les inconvénients. Les bouchons, la pollution, les transports en commun et le bus qui va trop lentement et donc il y a moins de gens qui le prennent. Et puis, comme tout ça reste insécurisé et insécurisant, une partie des vélos continue à rouler sur le trottoir et donc les piétons qui sortent restent en danger. Et là, c'est assez typique de quand on ne fait pas un choix. Peut-être qu'il aurait fallu ne rien faire, ou au contraire, réduire la circulation, le stationnement automobile sur le trottoir, comme ça a été fait avenue de la Forêt-Noire. Avenue de la Forêt-Noire, ça marche bien, parce qu'un choix a été fait. Et donc, quand on cherche à tout concilier, finalement, on accumule tous les inconvénients. C'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le plan local d'urbanisme qui a été voté à l'unanimité. Aucun élu de droite, de gauche ne...
C'est quoi ça, le plan local d'urbanisme ?
Alors, c'est la Bible de la construction de la ville. C'est ce qui nous dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est ce qui fixe des objectifs en termes de densité, en termes de nombre de logements. Et cette Bible, ce document qui a été adopté à l'unanimité, fixe des objectifs quantitatifs importants. Il dit qu'il faut construire parce qu'on a pris du retard sur le logement et il y a beaucoup de gens qui attendent du logement. Mais il a fallu 5 ans pour le faire à l'échelle des 33 communes de l'Eurométropole. Et pendant ces 5 ans, pendant le temps de rédaction et de préparation de ce document, eh bien, le monde a changé et surtout la relation à la qualité de vie en ville a changé. Ça fait 2 étés que l'on suffoque à Strasbourg. Il fait chaud. La nuit, les températures ne diminuent pas. On dort mal. Ça crée de la tension. Par ailleurs, il y a de la pollution de l'air. On a de plus en plus, chez les enfants, d'allergies, de problèmes pulmonaires. Et donc, on voit bien que la densité urbaine produit des choses dans la qualité de vie. Elle dégrade la qualité de vie. Et on n'a pas suffisamment anticipé ces évolutions. Ça fait longtemps qu'on parle...
Il faut arrêter la construction,
non,
à la Fontanelle ?
Non, on ne peut pas arrêter la construction. D'abord parce que la population grandit, c'est-à-dire, c'est pas tellement des gens qui viennent d'ailleurs, mais nous faisons des enfants, c'est une bonne chose. Parfois, les familles se séparent, se recomposent.
Souvent.
et tout ça nécessite du logement. C'est une question de proportion.
Il faut étendre la ville ?
C'est d'abord une question de proportion. C'est aller trop vite, trop loin en termes de densité. Et il y a des endroits où cette suffocation liée à la chaleur et liée à la pollution se double d'une suffocation liée à la densité. J'aime pas le terme de bétonisation parce que ça voudrait dire qu'il ne faut plus de béton. Mais ce qui est sûr...
Il faut moins de béton.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut moins de béton et qu'il faut plus de nature. Il faut plus d'espace vert parce que l'espace vert, c'est d'abord la convivialité. Il faut plus d'espace vert parce que l'espace vert est un climatiseur naturel et permet de réduire la température.
Alors comment on fait ça à la Fontanelle ?
Donc déjà, il faut avoir un débat sur la hauteur. Est-ce que plutôt que... Vous savez, les Black Swan. Les Black Swan, c'est un bon exemple. Il devait y en avoir qu'une seule tour en hauteur. Finalement, là aussi, le débat public, les habitants de l'Esplanade ont dit « Attention, ça va faire de l'ombre ». Donc, c'est pas bien. Et le maire a tranché, on a 3 tours moyennes. Mais 3 tours moyennes, ça veut dire qu'autour, il n'y a plus d'espace vert. Il n'y a plus d'espace de convivialité. Et donc, on a ce ressenti de densité, voire parfois
d'oppression. C'est un échec sur le quartier à la Fontanelle ?
Non, parce que ça a étendu le centre-ville. Je pense que le quartier Danube pose plus de problèmes. Parce que le quartier Danube, qui est juste derrière, ça devait être un éco-quartier tout vert et sans voiture, et pour l'instant, c'est plein de voitures et pas de vert.
C'est tout gris et sans voiture.
Voilà, donc,
et avec voiture.
Voilà. Et d'ailleurs, je remarque que c'est le projet phare des écologistes et d'Alain Youn. Ils le mettent toujours en avant. Parce que les verts ont cette doctrine de construire la ville sur la ville pour protéger, et c'est un enjeu, protéger les campagnes, les terres agricoles. Mais aujourd'hui, si on construit tellement la ville sur la ville sans limite qu'on n'a plus envie d'habiter en ville... On ira quand même sur les terres agricoles. Et donc, il faut retrouver un meilleur équilibre entre la ville, la densité et la nature. Il faut inverser le regard. On partait jusqu'ici du bâti vers la nature. Et aujourd'hui, il faut partir de la nature vers le bâti. C'est la nature qui va climatiser. C'est la nature qui va créer la convivialité. Et c'est la nature qui va aussi améliorer l'alimentation en ville. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, seulement 3% de ce qu'on mange à Strasbourg est produit localement. 3%. Alors qu'on a beaucoup de terres agricoles. Mais ces terres agricoles, elles produisent du blé et du maïs qu'on va exporter en Russie, en Suède ou dans d'autres pays, alors que l'on pourrait l'utiliser pour améliorer en proximité notre alimentation locale.
Ça fait partie de vos priorités, ça, justement, et de coller, on va dire, à la priorité des citoyens strasbourgeois qui mettent l'écologie en numéro 1 de leurs préoccupations.
Alors, ils mettent l'écologie... Ils mettent aussi l'emploi, ils mettent aussi la sécurité. Hein. Il ne faut jamais oublier cet équilibre-là et il ne faut pas céder aux modes. La question de l'écologie, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de survie de la planète. C'est aussi un enjeu de santé publique et de qualité de vie. Mais à côté de cela, s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas l'emploi, s'il n'y a pas le rayonnement européen de Strasbourg, notre ville ne pourra pas trouver son chemin conforme à son histoire. C'est donc l'ensemble de ces problématiques qui doivent être appréhendées avec responsabilité et équilibre.
On a été pris de court par les...
On va parler de votre liste et de vos colistiers. Alors, pas mal de personnes sorties de la société civile. On parlait de Daniel Hinder, l'harpiste, ou de l'ancien président de l'université de Strasbourg, Alain Béretz, ou encore Thierry Ross, conseiller municipal de l'opposition. Vous aviez envie, comme ça, de faire tomber les barrières?
Oui, c'était essentiel. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle, la fin d'un cycle politique où les campagnes électorales se faisaient de manière basique entre la droite et la gauche, avec beaucoup de postures, avec beaucoup d'idéologie. Aujourd'hui, il faut retrouver du pragmatisme, de la capacité aussi à rassembler des personnes qui, peut-être à un moment donné, ne partageaient pas la même vision, mais qui aujourd'hui se rejoignent sur des questions essentielles. Chacun a fait un bout du chemin vers l'autre. Et c'est ma liste. L'objectif, c'était qu'elle rassemble notre ville au-delà des vieilles postures, mais aussi qu'elle lui ressemble le plus possible. Et vous avez cité des visages connus ou emblématiques de Strasbourg. Et c'est vrai qu'Alain Béretz, c'est le président qui a fusionné nos universités, qui en a fait qui a fait apparaître Strasbourg dans le classement de Shanghai, qui ont donc a contribué à son rayonnement. Et il le dit, il est là sur cette liste pour faire de Strasbourg la ville des prix Nobel de l'excellence, prix Nobel du rayonnement et du développement économique. Il y a aussi Anja Linder, cet harpiste. C'est important de mettre la culture en avant à Strasbourg. Et puis, c'est un symbole aussi de la résilience de la ville. Elle a été frappée par un grand malheur à la lors de la tempête à la forêt de la Robertsau. Elle est depuis handicapée et elle porte aussi ce combat. Il y a aussi Laetitia Hornecker, qui est la troisième génération de maraîchers de la Robertsau, qui porte cette écologie du quotidien, non pas l'idéologie écologique, mais bien l'écologie dans l'action. Elle le porte aussi avec Martin Guillaumet, qui est président de l'association L'Arrosoir. Et il y a des acteurs associatifs, des présidents d'associations, des directeurs de centres socioculturels. C'est toute cette expérience-là, tout ce savoir-faire-là, qui est mobilisé pour demain amener Strasbourg encore plus loin.
Alors l'écologie, c'est vraiment le thème qu'on entend énormément par tous les candidats, qui est porté par tous les candidats. Il n'y a pas une petite course à l'échalote là, qui se crée sur ce sujet aujourd'hui, qui est un sujet de société, mais finalement, on pourrait reprocher à la liste écologique, on en parlait, on a reçu Jeanne Barzéguian, et je lui posais la question de savoir si l'écologie était un programme politique. De la même façon, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que chacun intègre l'écologie, est-ce que c'est devenu une nécessité? Est-ce que c'est un argument de campagne? C'est quoi l'écologie pour vous, Alain Fontanelle?
L'enjeu, c'est d'apporter des solutions concrètes aux problèmes concrets du quotidien des Strasbourgeois.
Comment concrètement, Alain Fontanelle, on fait en sorte de faire baisser de 2 ou 3 degrés la chaleur à Strasbourg l'été? Très concret.
De manière très précise, en construisant moins et en développant plus les espaces verts, en remplaçant des espaces minéralisés. Par exemple, nous proposons 3 grands nouveaux parcs, un derrière la gare, un sur le site de la citadelle, de la presqu'île citadelle, pardon, et un à Königshofen. Les grands parcs, c'est important parce que c'est ça qui aide à la réduction de la température l'été. C'est des poumons, c'est aussi une amélioration du bilan carbone. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des mini-espaces verts de proximité. Nous proposons qu'il y ait un petit espace vert à moins de 300 mètres de chaque habitant. Parce que là, c'est la convivialité, c'est aussi l'atmosphère de la ville, à tous les sens du terme, qui peut se développer.
Vous allez solliciter les citoyens. J'ai vu dans ma rue à Strasbourg que dans l'immeuble d'en face, ils ont créé des petits bacs.
Exactement. Sais
pas si la mairie est partenaire de ça, mais en tous les cas, voilà. Est-ce que vous allez le développer?
C'est ce qu'on appelle l'initiative Strasbourg ça pousse, qui est portée par ma collègue Christelle Collère, qui est aussi sur notre liste, qui est aussi une actrice de cette écologie du quotidien. C'est l'idée de dire aux citoyens, prenez en main ce combat, c'est important. Identifiez les lieux où il est possible d'avoir un bac, peut-être un bosquet, voire un arbre, et contribuez à cette action du quotidien, avec aussi, je le disais tout à l'heure, les enfants. Vous savez, chez moi, comme dans beaucoup de familles, quand je me trompe de poubelle sur le tri, c'est mes gamins qui sont derrière moi. Quand je laisse le robinet ouvert avec l'eau qui coule, ils viennent derrière refermer. Eh bien, dans les écoles, il faut aussi qu'on crée des écoles oasis avec des potagers pédagogiques, avec des projets. Parce que dans beaucoup d'écoles, les gamins, ils n'ont plus le contact à la nature. Vous savez, dans les années 80, il y a eu 90, un mouvement un peu hygiéniste. Il ne fallait plus qu'il y ait de terre parce qu'on revenait crotter à la maison. Il ne fallait plus qu'il y ait de sable parce qu'il y avait des risques de microbes. Et on a macadamisé toutes les cours d'école. Augmenter la chaleur, du coup, mais aussi plus de contact à la nature. Refaire des écoles un lieu d'apprentissage du lien avec la nature, c'est un enjeu important. Mais toujours des solutions concrètes aux problèmes du quotidien, et pas uniquement en matière environnementale, en matière sociale, en matière de sécurité, en matière économique. C'est quand on se focalise sur un seul sujet qu'on se perd et qu'on se trompe de chemin. C'est l'ensemble qui doit être cohérent.
Alors, il nous reste peu de temps, mais je vais vous demander des réponses courtes et très, je dirais, directes. Strasbourg, l'Europe, comment on fait pour maintenir les institutions, voire même les développer? Quelles sont les actions concrètes que la ville peut mettre en œuvre pour assurer la pérennité des institutions européennes à Strasbourg?
D'abord, il faut être ni naïf, ni avoir peur de son nombre. Dès qu'un député européen râle contre Strasbourg, il ne faut pas dire « oulala, le Parlement va partir ». Ça fait 40 ans qu'on entend cet antième, ce n'est pas vrai. À l'inverse, il ne faut pas être naïf, il faut faire du lobby, il faut s'organiser. Il va y avoir une convention sur l'avenir de l'Europe. Quand on réouvre les traités, là, il y a un risque. Et donc, il faut s'armer, il faut avoir un
réseau. Vous allez prendre des cabinets de lobbyistes pour aller travailler à Bruxelles?
Il faut, évidemment. Il faut aussi construire un réseau d'ambassadeurs auprès des parlementaires. Par exemple, nous avons la chance d'avoir Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, parlementaire européen. C'est un relais important. Il faut trouver d'autres relais dans cette même direction. Et puis, on a lancé la construction d'un nouveau bâtiment pour élargir l'assise du Parlement européen à Strasbourg, juste en face du Parlement. Le Parlement ne nous l'a pas donné. Eh bien, avec le département, avec la région, avec la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, on a dit « on y va ». On y va, c'est une part de bluff, mais c'est aussi une manière d'affirmer notre volonté et de ne pas rester toujours dans le défensif. On est offensif, on propose de nouveaux locaux, on propose de nouvelles infrastructures pour que le Parlement reste ici. Alors, ne l'oublions pas que ces bâtiments à Bruxelles sont menacés, qu'ils vont devoir refaire la totalité du bâtiment pour probablement plus d'un milliard d'euros et pendant 5 ans. Nous, on est prêts pour que le Parlement continue à s'installer durablement à Strasbourg.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que recevoir les députés 3 jours par mois, finalement, c'est beaucoup d'investissement? On ferait mieux de négocier une grosse administration européenne ou une grosse institution européenne et puis en suffire avec ce débat?
Vous savez, je le disais tout à l'heure, on a une responsabilité par rapport à notre histoire. Strasbourg est capitale européenne, pas pour faire plaisir aux uns ou aux autres, elle l'est parce que le polycentrisme a un sens en particulier à Strasbourg et nous avons vécu à Strasbourg, en France et en Allemagne, les tourments de la guerre, les tourments des conflits franco-allemands et européens. À chaque fois qu'il a manqué d'Europe et de culture à Strasbourg, c'est tout le continent qui a payé le prix fort. Et c'est aussi ce message qui est porté quand on parle de Strasbourg capitale européenne, Strasbourg siège du Parlement européen, siège de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe. C'est un combat qui était un combat qui dépasse Strasbourg. C'est un combat pour l'Europe, c'est un combat pour les droits de l'homme et c'est un combat pour la démocratie en Europe parce qu'on est capitale de la citoyenneté européenne avec le siège du Parlement européen et c'est important de défendre cette vision-là.
Alain Fontanel, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Hein. On aurait pu parler de tout un tas de sujets. On ne va peut-être pas rester la semaine ensemble. En tous les cas, ça a été un plaisir de vous recevoir et d'entendre vos arguments. Donc, je rappelle, vous êtes candidat à la mairie de Strasbourg.
Pour ceux qui ne le savaient pas,
on peut vous retrouver sur votre site Alain Fontanel 2020. En attendant, rendez-vous aux urnes. Ce sera les 15 et 22 mars. Merci à vous.
Merci.